divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin et François Nolin. François Nolin, bonjour et merci d'être à mes côtés aujourd'hui pour interroger Claude Fabre. François Nolin, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris Sud en physique et vous me faites l'amitié de venir m'épauler pour cette émission intitulée « Toute la lumière » où nous avons la joie d'accueillir Claude Fabre.
Bonjour.
Claude Fabre, vous êtes professeur à l'Université Pierre et Marie Curie au laboratoire Kassler-Brossel, où vous êtes physicien quantique de la lumière.
On peut dire ça.
Cette année 2015 a été proclamée par l'ONU l'année internationale de la lumière, et la fête de la science qui se déroulera du 7 au 11 octobre 2015 célébrera aussi cette année de la lumière. Il nous semblait donc naturel et de bon aloi à l'Union rationaliste de profiter de la fin de ce mois de septembre pour inviter les auditeurs de France Culture aux différentes manifestations de la fête de la science dans leur région. On peut les voir, ces manifestations, sur les sites académiques de la fête de la science, par exemple, et de s'intéresser aux différentes manifestations de l'année de la lumière. Alors, ma première question, Claude Fabre, c'est pourquoi une année internationale de la lumière décrétée par l'ONU?
Eh bien, donc, cette année 2015 a été donc décrétée année internationale de la lumière par l'ONU parce que on avait pour but de montrer au grand public toute l'importance de la lumière pour toutes les activités humaines. D'abord, évidemment, la vision, parmi nos sens, et le médium qui dont tire la plupart de ces informations sur le monde qui nous entoure viennent de la vision. Et donc, c'est important, évidemment, à ce premier titre-là, pour tout le monde. La deuxième chose, c'est la source d'énergie. La lumière véhicule l'énergie qui nous vient du soleil et qui arrive sur Terre. Et ensuite, par la photosynthèse et tout ce qui s'ensuit, donc elle est à l'origine de la vie sur la Terre et de toutes nos activités. Ensuite, la lumière est vecteur d'information, puisque donc Internet, ce n'est qu'une immense pelote autour de la Terre de fibres optiques qui véhicule la lumière et les informations donc qui sont codées sur cette lumière. La lumière, c'est aussi quelque chose de plus prosaïque mais important, qui est l'éclairage. C'est évidemment quelque chose de très important, qui ne fasse pas nuit lorsque tout s'éteint, lorsqu'il fait nuit. Et donc actuellement, il y a une révolution en cours là-dessus, c'est les LED, les LED blanches qui ont été inventées il n'y a pas longtemps, qui ont fait l'objet d'un prix Nobel il n'y a pas très longtemps, et qui permettent donc de produire de la lumière avec très peu d'énergie électrique. Et ça, c'est quelque chose de très important qui va changer toutes nos habitudes. J'en donne un exemple, c'est que donc il est possible de faire avec un petit panneau photovoltaïque, une batterie et une lampe LED, donc un éclairage qui est complètement autonome, et donc c'est quelque chose qui n'est pas trop cher et qu'on peut donc produire à grande échelle et envoyer ça en Afrique, dans les endroits où on n'est pas connecté au réseau électrique. Donc c'est quelque chose de très important pour le développement
mondial, et notamment de l'Afrique.
Et notamment de l'Afrique, et donc il y a un gros effort là-dessus à l'occasion de l'année de la lumière. Ensuite, la lumière, c'est la lumière laser, une lumière très spéciale, directive, intense, qui a de nombreuses applications, notamment des applications industrielles et médicales. Et donc il y a tout cet aspect de connexion directe avec l'industrie qui est derrière la lumière. Vous savez qu'on peut souder, on peut découper avec des faisceaux laser, mais aussi on peut utiliser cette lumière pour des applications médicales, pour traiter des différentes maladies. Et la lumière aussi, ce n'est pas que de la science et de la technique, c'est aussi de l'art. Il y a la lumière évidemment dans les peintures, dans les tableaux. Georges de la Tour en est un exemple évident, mais aussi les impressionnistes. Et puis la lumière, c'est aussi la photographie. C'est aussi le cinéma, toute cette partie de l'art qui passe par la vision, comme je le disais au début. Et puis enfin, je pense que c'est un aspect qui intéressera l'Union rationaliste, la lumière, c'est l'opposé de l'obscurantisme, c'est la philosophie des Lumières, Et évidemment, tout cet aspect donc de pensée rationnelle, en dehors de toute superstition, est quelque chose aussi qui est important dans cette célébration de l'année de la lumière.
Les lumières, plus que la lumière.
Voilà, ouais. Les deux.
Très bien. Donc, vous nous avez bien expliqué pourquoi on célébrait cette année internationale de la lumière et les différents champs dans lesquels elle se posait. Quelles sont les activités, les manifestations proposées autour de cette année de la lumière ?
Ben, il y en a beaucoup, et donc je ne vais évidemment pas vous faire l'énumération de tout ça. Les gens qui sont intéressés, là aussi, donc, n'ont qu'à aller regarder sur le site web qui s'appelle donc www.lumière2015.fr. Lumière 2015 en un seul mot. Donc c'est un événement mondial, donc il y a des manifestations dans beaucoup de pays du monde. Bon, évidemment, je vais pas en parler plus. Peut-être juste un d'entre eux. Il y a eu la semaine dernière un colloque à l'UNESCO qui a rassemblé donc des chercheurs du monde entier sur le savant musulman Alhazen. Alhazen est un des fondateurs de l'optique et donc c'est un savant qui était à Bagdad et au Caire dans les années 1000 et qui a apporté des contributions très importantes. Donc il a été question dans ce colloque. Et puis donc, pour maintenant se focaliser sur la France, évidemment, donc il y a eu des milliers d'événements, et il y en aura encore, puisque ça va aller jusqu'à la fin de l'année, mais ça va même continuer, évidemment, un peu.
Ça va déborder.
Début, ça va déborder, parce
sur
que
2016.
Des fois, c'est un peu long à mettre en place les choses. C'est en France, j'ai déniché quelque chose qui se passait même à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une installation de solargraph. Ce sont des appareils qui enregistrent la course du soleil sur plusieurs mois. Et donc, on peut savoir le temps qu'il fait en regardant cette course. C'est très intéressant. C'est très multiforme, tout ce qui est fait. Il y a beaucoup d'initiatives dans tous les sens. Hein. C'est très délocalisé. Hein. Beaucoup de gens se sont investis là-dedans, beaucoup de professeurs notamment. Et donc, il y a des conférences, évidemment. Il y a des spectacles lumineux, des shows laser, des spectacles sur les façades des bâtiments. Il y a des rencontres avec des chercheurs, il y a des présentations d'expériences, mais aussi des expériences, des manipulations que les visiteurs eux-mêmes peuvent faire, sous la conduite évidemment des gens qui sont là. Ces conférences s'adressent au grand public, pour une large part, mais elles s'adressent aussi, et ça c'est très important, aux enfants, qu'ils soient dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées, et ça c'est un gros effort que tous les professeurs, les chercheurs, les enseignants font pour essayer de, évidemment, donner envie aux enfants par l'émerveillement des phénomènes lumineux, parce que dans la lumière, il y a aussi tout cet aspect que c'est beau, hein, et c'est quand même une motivation très importante, donc leur donner envie de faire de la science.
Ça, je sais aussi que vous, Claude Fabre, vous êtes très impliqué dans la formation.
Voilà, oui, je m'occupe aussi donc de faire le lien entre les chercheurs et les enseignants, en finançant donc des initiatives de chercheurs pour aller dans les classes, expliquer aux élèves et leur donner justement ce goût des sciences.
Ce qui est aussi notre optique, si on Exactement. Peut dire, dans une émission sur la lumière, à l'Union rationaliste. Alors, merci beaucoup. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous rappeliez ou que vous esquissiez auprès de nos auditeurs un bref historique de ce qu'est la lumière, qui est quand même un objet.
Oui, c'est un peu difficile de faire ça sur un temps aussi court.
C'est vrai.
Hein, on va essayer de résumer au maximum. Donc, quand on regarde par exemple un rayon laser qui se réfléchit sur un miroir, on a l'idée donc que ce qui se propage et qui se réfléchit, c'est un peu comme une balle qui rebondit sur une surface. Hein. Donc l'idée que la lumière est un corpuscule, quelque chose qui est lancé comme ça, et était une des premières idées sur la nature de la lumière, évidemment. Mais après, on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne décrivait pas tous les phénomènes optiques et que les phénomènes dits phénomènes d'interférence, par exemple les irisations des bulles de savon, hein, des choses comme ça, ne pouvaient pas être expliquées par la lumière particule, la lumière corpuscule. Donc il a fallu aller au-delà, et c'est l'aspect ondulatoire, l'aspect que la lumière est aussi un phénomène délocalisé, une sorte de vibration de quelque chose qui a permis d'expliquer tous ces phénomènes. Donc il y a nécessairement dans la nature de la lumière deux aspects, hein, cet aspect ondulatoire et cet aspect corpusculaire qui a posé des problèmes, qui a été une colle pour les physiciens pendant beaucoup de temps, pendant des centaines d'années. Il se trouve que maintenant, donc, il y a une théorie qu'on appelle la théorie quantique qui est capable de réunir ces deux aspects dans un même formalisme et donc qui arrive à réconcilier ces deux aspects et même à l'étendre sur d'autres domaines que l'optique. Hein. On sait maintenant que la matière elle-même est aussi à la fois une onde et formée de particules. La lumière, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ressemble tantôt à une onde, elle ressemble de temps en temps à une particule, mais souvent, et ça c'est l'objet de recherches actuelles, et notamment des miennes, la lumière ne ressemble à rien de connu, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas toujours exiger des phénomènes
que ce soit du déjà connu,
à des choses déjà connues. Hein. Donc c'est du défrichage de nouveaux territoires dans lesquels la lumière se comporte de manière très étrange. Et cet étrange est effectivement ce que nous étudions en ce moment.
D'accord. C'est ça ce que ça veut dire, être physicien quantique?
Voilà, c'est utiliser donc la théorie quantique de la lumière pour prédire des phénomènes, pour faire des expériences qui, justement, mettent en évidence ces phénomènes étranges. Et puis, éventuellement aussi, de trouver des applications, parce que ça, c'est important aussi. Et ces aspects quantiques de la lumière trouvent une application dans le traitement de l'information. On a trouvé, il n'y a pas très longtemps, que si on utilise les phénomènes quantiques de la lumière, on peut faire des opérations d'ordinateur avec une vitesse beaucoup plus grande que les ordinateurs actuels. Donc c'est ce qu'on appelle l'ordinateur quantique, qui est un des graals actuels de la physique quantique. Et donc je contribue, dans mon coin, à faire avancer les choses dans cette direction-là, mais le chemin est encore bien long.
Oui, alors justement, c'était l'objet de ma quatrième question. Au fond, quand on se dit qu'on fait de la recherche quantique, on prend la lumière comme un objet tout à fait spécifique. Et en même temps, c'est ça que vous nous expliquez, travailler théoriquement sur la lumière, c'est aussi, d'une certaine façon, est-ce que vous nous expliquez oui. avec l'ordinateur quantique,
voilà.
trouver des informations, des applications.
Voilà, c'est toujours ce double aspect de curiosité, simplement, hein, d'aller vers de nouveaux phénomènes qui n'étaient pas connus auparavant, de creuser hein, dans cette direction-là. Et puis, évidemment, pendant qu'on creuse, on voit qu'il peut y avoir des applications. Une autre application possible mm-hmm. des choses quantiques, c'est l'amélioration de la précision de certaines mesures. Et donc, il y a ces fameuses ondes gravitationnelles qu'on cherche depuis des années à détecter. Et donc, l'optique est quelque chose de très sensible, hein, les phénomènes lumineux. Donc, on fait appel à eux pour essayer de détecter ces ondes gravitationnelles. Et on fait appel justement à ces nouveaux états de la lumière, ces états très quantiques de la lumière, pour essayer d'aller au-delà, d'aller à une sensibilité de détection la plus grande possible.
Très bien, c'est clair. C'est clair.
Voilà.
C'est clair que vous arrivez à marcher sur deux pieds, le pied de la recherche fondamentale et des applications.
Voilà, mais les applications sont souvent assez lointaines. Hein, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour y arriver à cette période d'application. Et notamment donc, pour les ondes gravitationnelles, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on en parle. Et l'application réelle est venue il y a un an ou deux, simplement.
Et comment ?
Ben, par des chercheurs qui ont mis donc en application donc cette génération d'états quantiques très spéciaux et qui ont fait tout l'effort technologique, parce qu'il y a beaucoup de technologie derrière tout ça aussi, pour mettre cette nouvelle lumière, disons, au service des détecteurs d'ondes gravitationnelles.
Est-ce que c'est dans les mêmes lieux que se fait l'articulation entre la recherche théorique et le technique ?
Oui, en général, c'est les mêmes lieux. C'est pas toujours les mêmes acteurs, parce que c'est plutôt un côté ingénieur quand il s'agit vraiment d'aller dans des applications réelles des choses. Donc, il faut vraiment se coltiner le terrain, résoudre un par un tous les problèmes techniques. Mais avec l'aide, donc, des physiciens, disons, plus fondamentaux, qui, eux, connaissent les détails de la théorie et de toutes les choses qu'on peut faire avec cette lumière.
Et dans l'équipe, comment ça s'articule, l'échange ?
En général, en tout cas c'est ce qui se passe chez nous au laboratoire Kössler-Bruxelles, on essaie de tenir les deux côtés à la fois de cette recherche, c'est-à-dire l'aspect expérimental et l'aspect théorique. Mais quand on va sur des applications comme ces détecteurs, hein, ce sont des détecteurs colossaux qui font plusieurs kilomètres de long, c'est vraiment de la grosse physique. Là, il y a une séparation nette entre les gens qui maîtrisent l'aspect ingénierie, technique, et ceux qui sont au service de cette ingénierie avec le formalisme quantique dans leur tête et dans leur compétences.
Alors, non seulement en tant que physicien de la lumière, vous faites de la recherche fondamentale, ensuite, vous vous articulez dans les communications avec les ingénieurs et les techniciens. Et enfin, vous avez aussi une grande part de transmission, de professorat,
voilà, donc,
d'instruction.
C'est évidemment essentiel de transmettre ce savoir et toute cette avancée des sciences vers les jeunes, et c'est pour qu'ils reprennent le flambeau et continuent
de la lumière
à creuser,
aux lumières.
Voilà, de trouver de nouvelles choses sur la lumière. Il reste beaucoup de choses à trouver, évidemment.
Bon, nous sommes à l'antenne de l'Union Rationaliste, alors j'ai l'habitude de poser à mes invités la question « Pourquoi êtes-vous rationaliste ?» On a beaucoup parlé de la lumière et des lumières, voilà. Alors Claude Fabre, pourquoi être rationaliste ?
Oui, eh bien, en tant que scientifique, en tant que physicien, je ne peux qu'être rationaliste. Ça fait partie du métier. Hein. Le métier, c'est la pensée rationnelle en action. Mais je suis aussi enseignant et je pense que l'enseignement de la physique en particulier, des sciences en général, c'est quelque chose de très formateur pour inculquer à nos jeunes l'esprit rationnel, qu'on appelle en physique le sens physique, hein, qui est basé sur le fait qu'on forme des hypothèses pour expliquer un phénomène, qu'ensuite on déroule ses conséquences mathématiques et que ensuite on soumet tout ça à la critique et à l'expérience. Et puis si ça marche pas, on cherche une autre hypothèse et on va chercher ailleurs. Alors ça, c'est important dans le domaine de la science, mais c'est aussi évidemment important pour toute étude dans les phénomènes de société, notre vie en société. Donc essayer de faire en sorte que les jeunes aient un esprit critique, un esprit rationnel pour aborder les problèmes de notre société est quelque chose de très important, puisqu'on sait bien que souvent c'est un peu l'inverse, hein, que la pensée non rationnelle, les superstitions, l'irrationalité règnent souvent dans ce genre de domaine.
Gagne. C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. François Nolin, Claude Fabre, je vous remercie et je vous dis au mois prochain. Je remercie Dimitri Scapolon et Dany Journaud qui ont rendu possible cette émission. Je rappelle que les cahiers rationalistes numéro 634 consacraient un excellent numéro aux événements autour de Charlie Hebdo et dans la lutte contre le fanatisme religieux. Et je rappelle aussi les deux numéros de Raison Présente consacrés au progrès, le numéro 194 et le numéro 189, dans lequel il y a évidemment de beaux articles sur le rapport de la science et du progrès. Je vous dis au mois prochain.